is Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a dismissal, Lenny Wilkins leads the floor. And for the second time today, the visiting team have won the deciding game in an opening round series. Right now, let's go right over to JB with Michael Jordan.
Bonjour à tous, vous écoutez Money Time, l'émission estampillée basket et culture NBA sur Radio Graphite à Compiègne, 94.9 sur les ondes, et évidemment sur www.graphite.net. Money Time, la seule émission radio capable de faire se mettre d'accord Tony Stark et Captain America. Alors aujourd'hui, en direct, hein, comme d'habitude, Money Time continue de vous narrer et de commenter les playoffs NBA 2024 qui sont passionnants, pour vous faire plonger dans cet univers de super-héros capable de changer la destinée d'un match couperé sans avoir besoin des pierres d'infinité de Thanos. Et pour cela, on a composé une équipe de super-héros du cru, plus ou moins doués et spectaculaires, que je vais vous présenter après le programme de cette émission. Au programme de cette émission, donc, la chronique habituelle, le basket et Wham, ou l'histoire d'un basketteur lambda des années 90 à aujourd'hui. Aujourd'hui, comment j'ai arrêté le basket. Le point sur les 4 demi-finales de conférence en cours qui nous tiennent en haleine. Et puis, avec son expérience d'homme mature ou de filf, Mehdi et Matteo vous donneront un petit cours d'histoire moins chiant qu'avec Stéphane Bern ou Laurent Deutsch pour revisiter la story d'un personnage historique célèbre. Aujourd'hui, ce sera Tim Duncan. Notre escale dans un club, une salle et une ambiance NBA proposée par notre globetrotter Cyril, avec qui on va faire un petit tour dans la capitale californienne qui n'est pas LA, mais bien, Sacramento. On aura une nouvelle rubrique aussi qui s'appellera Bruno Way, dans lequel Bruno nous présentera un coup de gueule, voilà. Comme Bruno est un type de mauvaise humeur, il nous présentera son coup de gueule de la quinzaine. Et pour clore notre émission en apothéose, émission bien chargée, hein, vous le constatez, le désormais traditionnel buzzer beater sur la thématique du jour, load management ou esclavagisme façon Tom Thibodeau, existe-t-il un juste milieu pour préserver ses joueurs sans passer par le sacrifice humain? Allez, c'est parti, on accueille nos invités.
En fait, on est quoi? Une équipe? Non, on est un composé chimique qui provoque le chaos. On est une bombe à retardement.
Vous? Éloignez-vous de moi.
Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de péter un peu les plombs?
Vous savez très bien pourquoi. Ne me provoquez pas, vous.
Plus vous m'en empêcherez, plus j'en aurai envie.
Ouais. Vous jouez au dur sous votre armure. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi?
Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire.
Je connais des gars sans rien de tout ça qui en valent 10 comme vous. J'ai vu ce que vous faites. Le seul pour qui vous vous battez, c'est vous. Vous n'êtes pas le genre à savoir vous sacrifier. Coucher sur des barbelés pour que d'autres soldats rampent sur vous.
Non, moi je couperai les barbelés.
Toujours une pirouette. Oui, vous n'êtes peut-être pas une menace, mais évitez de vous faire passer pour un héros.
Un héros? Comme vous? Vous êtes une expérience de laboratoire, Rogers. Tout ce qui fait de vous un type exceptionnel est sorti d'une bouteille.
Eh oui, vous avez compris, ce sera une spéciale Avengers aujourd'hui. Alors, justement, pour présenter l'équipe de super-héros, je commence par celui qui est précis dans ses propos, référencé dans ses interventions. Il vise juste quand il parle, beaucoup moins juste quand il shoot. Notre Hawkeye, c'est Bruno. Yeah. Allez, tiens, prends ça.
Beaucoup moins juste quand il shoot, ouais. Voilà, là. Ça attaque dur.
Voilà. Le même physique et la même délicatesse que le monstre vert quand il gueule, ça tremble. Et un jour de gastro, on les confondrait volontiers. Le Hulk de la Croix, c'est Mehdi.
Je suis vert.
Il est vert, ouais. On continue avec un vrai gentil, à l'inverse. Toujours égal dans ses humeurs, véritable bouclier en défense et fort d'une condition physique irréprochable, à la différence de ses coéquipiers de la Croix. Notre capitaine qui connaît bien l'América, c'est Cyril.
Yeah, Captain America.
Et j'introduis notre quatrième Avengers par un petit jingle.
C'est de l'orgueil et de la vanité, pas de l'autorité. Tu as oublié tout ce que je t'ai enseigné sur la patience du guerrier.
Lorsqu'il vous voit faire preuve de patience, les neuf royaumes se rient de nous. Vous êtes d'un autre temps. Vous vous contenteriez de paroles pendant qu'Asgard s'effondre.
Tu n'es qu'un enfant.
Voilà, il a tendance à beaucoup contredire son paternel et provoque des tempêtes quand on lui demande de faire ses devoirs. Le tonnerre, il le prend alors régulièrement sur la tête. Et comme il a souvent tort, le tort, c'est Mathéo. Salut Mathéo.
Salut.
Bon, il faut introduire le dernier. Playboy, milliardaire, doté d'une intelligence et d'une imagination hors du commun. Il a néanmoins un gros problème d'ego, comme le prouve son auto-présentation. En plus de son léger penchant pour l'apéro, le Tony Stark des Avengers, c'est Wham. Applaudissements, s'il vous plaît. Yeah.
On n'est jamais mieux servi que par soi.
Je suis méga. Allez, on démarre tout de suite avec notre première rubrique.
Against Iguodala. 5 seconds left. Waiters back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Bank it in. It counts. It counts. The Heat win the game. Dwayne Wade won it for Miami.
Alors, après la révélation, après la découverte, après la théorie, les statistiques, après les insomnies, le temps est venu de vous narrer les raisons qui poussèrent le protagoniste du basket et Wham à arrêter le basket pendant près de 20 ans. J'ai arrêté le basket en club à 17 ans, pour pouvoir me consacrer pleinement à mes études. Enfin, surtout aux copains et aux filles qui allaient avec. J'ai joué encore le week-end avec mes potes de toujours, certes, mais sur le bitume, en extérieur, sans trop de règles, quoi. Et comme je découvrais, comme Jean-Pierre Bacri, le sens de la fête, il devenait compliqué de concilier deux activités énergivores et incompatibles. Parti pour suivre mes études à la fac sur Lille, à la fin de celle-ci, cependant, fort d'un emploi du temps de 14 heures de cours hebdomadaires que je n'assurais même pas, je décidais de tenter un comeback à la Michael Jordan. Lui avait quitté les Bulls à la mort de son père, assassiné lâchement dans sa voiture, et était devenu, pour lui rendre hommage, un modeste joueur de baseball, au professionnel hein, tout de même, on parle quand même de Jordan, il a d'un seul coup décidé de mettre fin à cette carrière pas très prolifique pour annoncer un comeback dont tout le monde se souvient ici. Tout le monde se souvient ? Ok, ils se souviennent tous. Moi, après 4 années sans licence FFB, alors que les plus sérieux du club où j'avais évolué en montant avaient continué à s'enquiller des matchs contre Rimbaud-Court ou Lambreau-les-Doué, au Saut du Lille samedi ou le dimanche, je me disais que trouver un petit club pépère juste pour les entraînements me permettrait de remettre un peu de discipline dans ma vie dissolue. Dans un contexte un tantinet moins dramatique et médiatique que le numéro 23 des Bulls, devenu entre-temps 45 puis 9, le temps de récupérer son dû, le maillot floqué, et évidemment les titres qui y allaient avec. Je dois dire que ma reprise s'effectuerait d'ailleurs avec moins de pression que MJ, et avec moins d'attente de la part de mon groupe de fans, circonscrit à ma maman et moi-même. Et The Last Dance, pour moi, ce fut donc une dernière pige d'un an dans le club médiocre de Lalin, loin de mes années de gloire en cadet à Montigny-en-Ostrevent, pour découvrir le monde effrayant des Kékés du Nord. L'un d'eux, la star locale, venait à l'entraînement en Golf GTI tuné. Il signifiait son arrivée à l'entraînement par un dérapage bruyant et pénible devant la salle, véridique. Et je dois dire que ce connard, plutôt doué en attaque mais incapable de faire une passe sur un terrain, et rechignant à défendre, activité ingrate et indigne de sa personne, a fini par me dégoûter du basket, à l'inverse de mon modèle déjà cité dans cette chronique, Alexandre Robillard. En fait, ce Geoffrey, il me semble qu'il s'appelait ainsi, a même réussi à me dégoûter temporairement, heureusement, de l'espèce humaine de façon générale. Un jour, alors que toute l'équipe, si on peut appeler ainsi une cohorte de passeurs de plats, attendait dehors l'ouverture de la salle, dont les clés devaient arriver avec notre héros local, un crissement de pneus nous avertit de l'entrée en scène imminente de notre champion. Gros dérapage devant les yeux pour certains admiratifs de ceux que j'avais du mal à appeler coéquipiers, et devant les miens plus dubitatifs. Sauf que ce jour-là, il avait plu pas mal, que notre Kobe Bryant avait des pneus lisses, comme son électroencéphalogramme, à force de leur infliger une maltraitance absurde quotidienne, et que, un poil trop confiant, il jugea mal sa trajectoire. Et logiquement, au lieu de s'arrêter à 5 cm du mur, comme d'habitude, le pare-choc de la Golf s'y inséra 5 cm au-dedans. Gros choc donc, entrée ratée, et voilà notre héros malheureusement indemne, le cerveau souffrant déjà auparavant d'une commotion cérébrale chronique, qui sort en catastrophe de l'habitacle les mains sur la tête pour constater les dégâts. L'assistance est sidérée, compatissante, ses gars lui témoignent de leur soutien et de leur amitié en bon faire valoir qu'ils sont, alors que lui est à deux doigts de chialer en constatant que son super avant de bagnole au baquet sous-élevé ressemble à une espèce de choucroute de plastique. Et moi, spectateur incrédule, je suis effondré aussi, mais de rire. Je n'arrive plus à m'arrêter. L'autre est en train de calculer combien de boîtes de ravioli il va devoir mettre en rayon avant de pouvoir remplacer son pare-choc série limitée beauf, puisque vous vous en doutez, il n'est pas énarque, trader ou neurochirurgien, et fait partie de ces gentils garçons qui claquent leur salaire en aileron, jantes en alu et sonos surpuissantes. Et puis, mettez-vous à la place de son assureur qui, sur le dossier de sinistre, découvrirait avec circonspection la réalité dramatique des causes, si elle lui était relatée avec honnêteté, a malencontreusement heurté le pignon nord de la salle des sports de l'Alain en mettant un coup de frein à main pour se garer en épi sur le parking. Ouais, c'est sans nous moquer, cher auditeur, pour revenir sur le dénouement. Ce soir-là, je crois que Geoffrey ne participa pas à l'entraînement qui ressembla pour une fois à une session de basket. Alors soyons lucides, hein, je n'étais plus un très bon basketteur. Hein. Moins rapide, moins précieux au shoot, mes belles années étaient derrière moi. J'ai terminé la saison, certes, mais mon corps me lança un dernier message dès l'été qui suivait. Sur un playground surchauffé, je n'étais pas Jordan. Un jour, sur une réception hasardeuse, après un saut, mes talons enregistrèrent le contact du sol et l'impact à la place de mes orteils. L'onde de choc se répercuta sur ma colonne vertébrale et vint mettre un terme à ma pratique du basket. Désormais, chaque tentative pour m'y mettre se solderait par un lumbago de 15 jours, disque écrasé qui venait comprimer le nerf sciatique, perte d'un précieux centimètre de taille, surtout pour moi, et tristesse indélébile. Life sucks. Ok, il est temps de faire le point, chers amis, sur les demi-finales de conf qui, mis à part l'une de ces quatre affiches, sont particulièrement indécises. Et comme on va voir, on va évoquer ces super-héros qui sont en train de s'affronter actuellement, je vous propose de commencer, les gars, toute l'assistance, par la conférence Est. Et ouais, on va vite expédier la première affiche qui est pas très palpitante. Désolé, Bruno. Ouais, il est venu avec son maillot des Boston Celtics de Jaylen Brown. On va évoquer le Boston Cleveland qui actuellement affiche un 3-1. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Ça reste des beaux matchs. Hein.
Ouais.
Alors Boston est plus fort, mais Cleveland se bat. Hein. C'est pas aussi écrasant que je le pensais avant la série.
Surtout le quatrième match là. En fait, c'était assez serré. Hein. Ils auraient bien mieux le prendre, le Cleveland. Hein. C'était un peu tendu, quoi.
Ouais, ça aurait été mérité.
Et c'est-à-dire qu'en fait, on avait beaucoup misé sur un 4-0 et les quelques absences, en fait, bon, Jarrett Allen est absent, bon, de l'autre côté, Porzingis est absent aussi, mais on s'attendait, Mitchell a fait quand même un sacré, a réussi quand même à scorer.
Il est sur une série, Mitchell, entre le premier tour là, contre Orlando et puis maintenant contre Boston, il était quand même au taquet, quoi.
Ouais.
Ouais, sauf qu'il n'a pas joué. Là, voilà.
Alors, sauf qu'il n'a pas joué, et je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais j'ai trouvé qu'à la limite, Cleveland jouait mieux sans lui. C'est-à-dire que les autres joueurs se responsabilisent beaucoup plus. Cyril,
ouais, bah, on en parlait il y a deux semaines, quand son franchise player n'est pas là. Parfois, ça sensibilise et ça remobilise les autres coéquipiers qui peuvent là briller. Ouais. Et je crois que c'est ce que ça a donné aussi. Donc, ouais.
Donc vous êtes d'accord?
J'ai plus le nom de l'autre meneur, Zeki, déjà.
Garland. Ouais.
Il le soutient vachement, en plus. Je trouve qu'il a sa personnalité.
C'est un bon coéquipier.
Ouais. Au final, alors ce que je pensais pas avec Utah, tu vois.
Il y a le retour de Wade, qui fait énormément de bien.
Wade. Hein. Ouais, par contre, il met pas un shoot. Hein.
C'est lui
là pour défendre.
Vous avez rappelé ce match là, dans la saison régulière, là, où il fait perdre, justement, Boston perd là-bas, ou chez... Non, TD Garden, je crois.
Ouais, c'est TD, ouais.
Sur une série de shoots de D-Wade, là, qu'il est...
C'est Dean Wade ou c'est Strouse?
Non, c'est Dean Wade.
Ah, d'accord, ok. Donc, Garland, on s'était déjà posé la question cette année dans l'émission, à savoir si Mitchell et Garland ne se marchaient pas dessus. C'est deux joueurs qui ont besoin d'avoir la balle. Mitchell,
c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul ballon pour l'équipe.
Bon, en tout cas, On annonçait un 4-0. Finalement, je trouve pas Boston hyper convaincant. Hein. Tu m'en veux pas, Bruno?
Voilà, c'est pas Cleveland qui paraît fort. Je pense qu'ils jouent vraiment à leur taquet. Par contre, Boston, ils sont un petit peu en roue libre.
On est d'accord.
Ils savent très bien qu'ils sont énormément supérieurs à eux.
Est-ce que c'est pas le problème, la conférence Est, en fait?
Ouais, je suis impressionné.
De leur tableau, surtout.
Mmh. Bah, de leur tableau. En plus, le tableau. Ouais. Et, ouais, mais là, tu cumules les deux. Quoi. Le tableau dans cette conférence Ouest, Est.
Ouais, ils vont arriver en finale, en plus, sur une équipe, que ce soit l'une ou l'autre, qui va être un petit peu fatiguée.
Et on a eu le débat, là, un peu, dans le groupe WhatsApp, sur est-ce que les... En fait, moi, là, en ce moment, je pense que toutes les équipes de l'Ouest... qui sont actuellement...
Ouais, laissent de l'énergie.
Bah, c'est-à-dire que...
Ils peuvent taper Boston, quoi. C'est ça, le truc.
Dans l'état actuel, c'est vrai que... Un Minnesota ou un Denver-Boston. Bon, moi, dans mes pronos, moi, j'ai dit, Denver champion 4-2 contre Boston.
Moi aussi, j'ai mis ça. Ouais.
Parce que je crains, malheureusement, pour Boston que. Alors, déjà, si Porzingis ne revient pas, alors ça va vite être plié parce que.
Puis pas de nouvelles là-dessus.
Ouais, c'est pas très.
Pas d'infos sur Porzingis.
Après, ils ont encore une série de payoffs derrière, a priori, pour pouvoir le réintégrer au roster. Et sachant que la guerre de tranchées entre Indiana et New York, dont on peut faire la transition tout de suite. Ouais. Mais la guerre de tranchées va laisser des traces aussi. Et que Boston devrait normalement avoir un avantage, entre guillemets, de fraîcheur et de.
Ça serait. Elle est bizarre, cette série, parce que il y a les deux derniers matchs, là, c'est deux blowouts. Un Indiana pour Indiana, et hier New York qui les explose. Ouais. Alors sur les deux derniers matchs, ils avaient trouvé la solution sur Brunson. Et hier, il leur a fait...
La misère.
Il n'a pas encore mis 50, c'est même surprenant. Quoi. Il est qu'à 44.
C'est déjà pas mal.
Ouais. Ah, c'est mes...
Alors il a tout fait. Hein. Par contre, il rentre dans la raquette. Enfin, c'est impressionnant, Brunson, quand il...
Après, New York, ils sont obligés d'en laisser un peu. Quoi. Le dernier match, tu vois, ouais, c'était peut-être... Ils sont obligés de le laisser. Des fois, ils sont obligés de laisser... De perdre, quoi.
Oui, enfin, De ne pas avoir joué le quatrième quart-temps, ça leur a peut-être fait du bien.
Bah, ouais, bien sûr.
Il y a un moment, tu peux pas...
Il y a un facteur X à New York, quand même, c'est le...
Hartenstein. On est d'accord.
Ah, je savais que j'allais le cafouiller, celui-là.
12 rebonds offensifs.
Ouais. Non, lui, c'est un monstre dans la raquette.
Des contres, des passes. En plus, c'est vraiment un bon joueur. Puis un bon joueur, il a une bonne vision du jeu. Quand les mecs coupent, ils leur font des passes. Mathéo, t'en penses quoi? Cette série... Indiana, New York, qui est quand même un peu plus trépidante, quand même, que même si on a eu deux blowouts, comme l'a dit Mehdi.
Bah moi, je pense que New York, ils vont gagner, mais ça va aller en match 7.
Bah, tu vois, en 7
aussi. Je te dirais que en tant que supporter de Boston, ça m'arrangerait un peu. Quoi. Parce qu'ils vont arriver totalement cramés. Quoi. Tandis qu'Indiana, bah, déjà, ils jouent peut-être à 8 ou 9.
Ouais, ils jouent à 8, ouais.
Donc, ils ont déjà un plus de profondeur.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je me fais la même analyse et je pense qu'il vaut mieux que ce soit New York pour Boston.
En plus,
parce qu'Indiana, ils font tourner quand même.
La rivalité Boston-New York, en plus, en tant que ville américaine, et après les équipes de basket, il y a des rivalités dans tous les sports au niveau.
Ah oui, les Bruins, tout ça. Oui.
Baseball, foot américain, enfin, ils se tapent tout le temps les Rangers, enfin, le foot, le hockey aussi. Ça peut être une.
Ouais, mais moi, ce qui me dérange avec New York. C'est la gestion du coach, en fait.
Bon, on en parlera, c'est notre buteur.
Non, mais là, juste, il crame ses joueurs.
Complètement.
Et là, il en a quand même trouvé deux à qui jouaient plus du tout.
Ouais.
Et les gars, il les appelle, ils ont la même mentalité, c'est des guerriers.
Je sais pas ce qu'il leur dit.
Et Alec Burks, hier, il met 18 points.
On sait que Thibodeau, qui a toujours connu ce problème, on en reparlera tout à l'heure, hein, je vais pas évoquer cette question qui est la fin de notre buzzer beater de l'émission, mais on sait que Thibodeau a toujours su créer un très bon relationnel avec ses joueurs, puisque si tu prends à l'époque de Noah, Derrick Rose, qui avait Butler à l'époque, tout ça. Ces mecs-là, c'était des soldats de Thibodeau et ils étaient prêts à crever sur le terrain pour lui.
C'est exactement ce qu'ils ont fait.
Ils sont en train de mourir sur le terrain.
Ils ont quitté Thibodeau et Derrick Rose et Noah, ils sont partis dans le caveau avec. Quoi. C'est ça.
Ouais. Il a ruiné plus d'une carrière.
Mais psychologiquement, ça doit être quand même. Il doit avoir un truc.
Oui.
Après, je sais pas la relation les entraîneurs américains s'ils parlent vraiment à leurs joueurs parce qu'il y a tellement de
coachs, effectivement.
Mais tu te dis pour les garder comme ça sous tension, alors que les gars ils ont pas joué de la saison, ils sont pas dans les rotations, il arrive quand même à les remettre dans le.
Ouais, mais ça reste des joueurs NBA.
De toute façon, c'est un autre niveau, on se rend même pas.
Il y a du talent.
Ok, on passe tout de suite à l'Ouest avec la série qui. Alors, on en discute un petit peu avant l'émission aussi, qui nous laisse un peu sur notre faim, c'est ce OKC Dallas. En tout cas, Mehdi et moi, on a un petit peu...
Je trouve que c'est les moins bons matchs
je suis assez
des quatre demi-finales, c'est les moins bons matchs.
Cyril,
Oui, je rejoins complètement. Moi, je pense que cette série va se jouer sur le genou de Doncic, vraiment. Je pense que c'est l'élément déterminant de cette... si le genou tient, moi, je vois Dallas passer. Et si le genou passe pas, bah OK, s'il passe. Voilà, ouais. Simple. Aussi simple que ça.
Ça se demandait même s'ils ne devraient pas le laisser reposer un match, quoi.
Ouais. Mais, ouais,
est-ce qu'ils n'auraient pas pu gérer ça pour...
Est-ce qu'ils peuvent se permettre de laisser reposer Doncic?
Je pense qu'il y a deux choses. Voilà, je pense déjà on peut pas laisser Doncic sur le banc, et je pense que lui n'a pas envie, même si on lui dit il faut un match de repos. Je pense qu'il a une mentalité de guerrier, vraiment, c'est un warrior, et je pense qu'il refuserait. Donc et on le voit, je l'ai vu sur le match cette nuit, il se tient le genou quand il court, etc. Ouais. Mais après il fait le taf, c'est ça qui est fou.
Mais qu'est-ce qu'il arrose, enfin là il a un pourcentage dégueulasse.
Ah ouais. Sur 20 au shoot, franc. Puis les lancers francs cette nuit.
Il en rate un très important qui permettrait l'égalisation, et en gros il perd là-dessus, clairement il perd sur un lancer franc.
C'est franc, ils font 10 sur 22.
Ils en loupent
plus. Ouais, c'est ça. 10 sur
22. C'est une honte. Mais ouais. Et d'ailleurs, quand on regarde aussi, enfin, c'est pas sur le dernier match là, c'est Irving aussi qui apporte pas. En fait, le meilleur joueur de la série pour l'instant pour Dallas, c'est PJ Washington.
PJ, hein.
Ouais, PJ,
ouais.
Fou.
Donc,
on s'attendait pas à ça quand même.
C'est un choix d'Oklahoma. Hein. C'est vraiment un choix de le laisser. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix, mais
on peut le redire quand même. Lou Gensdorf est en train d'éteindre tous les mecs qu'on lui a mis face à lui quand même.
Mais il a toujours été hyper fort.
T'as vu le morceau de barbate que c'est le gars.
Et l'équipe, l'équipe du Canada.
Ouais.
La défense de l'équipe du Canada.
Dylan Brooks, Dort, Shai
au JO.
Ouais, parce que Shai il est pas derrière, c'est pas le dernier.
Non mais ça va. Bon, ouais. Ça peut péter.
Bah Théo, t'as un mot à dire sur cette série de Dallas au Casey? Tu as pas trop, tu as suivi ou pas trop toi?
Moi j'ai moins suivi cette série, mais je pense que Casey va passer.
Tu penses que Casey?
Le meilleur joueur sur le terrain, c'est qui le meilleur joueur sur le terrain?
Bah
des deux équipes
pour l'instant c'est Shai.
C'est Shai. Ouais. Bah ouais. Je suis d'accord. Je pense que.
Ok, il nous reste une affiche à évoquer, et franchement celle-là, alors là il nous faut une émission spéciale, le Minnesota Denver. Minnesota qui avait remporté les deux premiers matchs dans le Colorado, on s'est dit what the fuck, qu'est-ce qui va se passer, on va en prendre 4, et derrière retournage de crêpes, et c'est Jokic qui, voilà. Alors on pourrait dire, on parlait des super-héros, Ant-Man il s'est fait piétiner par Thanos cette nuit, non?
Totalement.
Il est injouable.
Ouais.
Alors j'ai entendu les commentaires sur Gobert qui n'a pas réussi à le tenir, mais défendre en un contre un contre le Joker, c'est impossible.
Et le match d'avant, c'est il met Towns au début dessus, il fait des fautes à la con dès le début. Enfin,
il sait pas défendre.
Il n'arrive pas à réussir à le défendre non plus. Faut pas. Enfin, c'est le MVP, c'est Jokic.
Alors oui, Gobert est défenseur de l'année, mais Anthony Davis, on en parlait en antenne tout à l'heure. Anthony Davis l'année dernière, défenseur de l'année aussi, n'empêche pas, potentiel défenseur de l'année, du calibre.
Les 5 premiers.
Voilà, il est connu pour être peut-être le meilleur défenseur intérieur, en tout cas, le plus polyvalent. Il s'est fait fumer l'année dernière.
Le seul intérieur qui a réussi à le tenir cette année, c'est Wemby.
Ouais, c'est vrai.
Wemby qui a réussi à le tenir, c'est tout. Mais il est trop fort.
Relatif.
Et quand tu tiens Jokic, c'est quoi? Tu es 25 points, Dirbon et 5 passes, c'est
ça le tenir. Non, il était même pas arrivé à 20. Hein. Même pas arrivé à 20. Sur
ouais, mais enfin, quand il n'arrive pas à 20, il a 17, 13.
17 passes, ouais. C'est ça.
Donc bon, tu choisis ta mort avec Jokic. Soit il te fume, il te marque 40 points, ce qu'il est capable de faire.
Porter Junior, il n'a pas été bon en shoot la nuit dernière.
Alors la grosse modification qu'il y a eu entre les deux premiers matchs et le reste de la série, c'est l'utilisation de Gordon. Parce qu'ils ont bien vu sur les deux premiers matchs que la relation ligne de fond, elle passait plus parce qu'il l'avait énormément travaillé. Et là, il joue complètement différent.
C'est lui qui monte la balle.
C'est lui qui monte la balle.
Et Gordon qui monte pour soulager Murray.
Exactement. Et après, ils font des pics bas, en fait, sur la ligne de fond pour Murray, pour le libérer. Et Jokic se retrouve tout seul en haut, en un contre un sur son défenseur. Et
c'est Mike Malone, quoi. L'entraîneur,
on sent que c'est réfléchi. Sur le.
Ouais.
Ils ont bien travaillé entre le match 2 et le match
3.
Mike Malone est
il est fort aussi. Et Aaron Gordon, moi, il met pas de.
Ouais, moi aussi.
Entre ce qu'il était à Orlando, faut se rappeler, quoi.
Oui, bien sûr.
Orlando avec Fournier, Vucevic.
C'est vrai que c'était pas. Et là, c'est vrai que sur cette série-là, on se pose la question. Anthony Edwards a bousillé les Suns à lui tout seul. Il a cartonné sur les deux premiers matchs, mais là, on sent clairement qu'il est en difficulté. Là cette nuit, quand il n'était pas là, c'est lui qui a dû remonter la balle. Il avait une pression tarée sur lui, ils lui ont collé une pression. Puis en plus, ça, il a bien trash-talké pendant les deux, au bout des deux premiers matchs.
J'aime bien ça.
Moi, j'aime bien. Ouais. Alors, j'aime bien aussi. Mais j'aime bien aussi quand les mecs se font recoudre la bouche comme lui. Hein, ouais. Ça me fait bien marrer, quoi.
Ouais, mais bon. Et les amendes, c'est pareil. La gestion de l'arbitrage, on peut en parler aussi, quoi. Parce que Murray, il se prend 100 000 dollars d'amende là, pour son truc qu'il a acheté sur le terrain.
Ouais.
Gobert, il en prend 75 000 pour son geste. Bon,
ouais. C'est quoi son geste? J'ai pas suivi.
Il fait la monnaie.
La signe de monnaie.
Oh, avec ses deux mains, il fait comme ça.
Money time. Excellent.
Ah, bon, et surtout en défense aussi, ils ont travaillé Denver. Parce que sur le match de cette nuit, il y a 5 ou 6 passages en force de sifflet. Ouais. Donc ils les ont vraiment bien étudiés. Ils savent se placer. En fait, ils ne montent plus au contre. Ils ne montent plus du tout au compte parce qu'ils sont très athlétiques, Minnesota.
Ouais.
Mais ils sont tous sur le placement. Ils se placent.
Mmh.
Et on sent vraiment qu'il y a une vraie étude et du coach en attaque et du coach en défense.
Bien sûr.
Il y a vraiment un impact du coaching sur cette série.
Tactiquement, c'est vraiment la série la plus intéressante.
Enfin, moi, c'est la série que je
préfère. Et ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion.
Non, non.
Ça, c'est hyper important.
Après, Jokic, il est incroyable.
Là, cette nuit, MVP, invincible.
Enfin, quand on entend encore des gens qui disent MVP.
Ouais, mais faites gaffe, c'est la saison régulière. Là on est passé en mode playoff. C'est pas.
L'année
dernière, il n'était pas MVP de la saison. Il était MVP des finales. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Lui, c'est ça qu'il veut.
Il s'en fout. Lui,
je crois qu'il s'en fout.
Ouais, c'est clair.
T'as vu quand il lui a encore donné son trophée là avant le match? Il s'en fout, c'est ses copains qui sont contents pour lui. Quoi, mais...
Je pense qu'il le fait exprès un petit peu. Bon, on va faire une petite pause, les gars. C'est le moment de mettre un peu de musique avec un petit morceau Happy par Slow Tie que j'ai tagué sur Graphite. Parce que sur Graphite, on passe vraiment de la bonne musique. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas ça.
C'est merdé. Merde.
Ah, c'est parti. Sides to commit, hear the whispers from the angels, positive. How am I swayed by the demons chanting fibs when the wolves cave in? No one's there, keep nodding, yeah. My head's the rocking chair. We keep going round, we keep going round. I never made you proud, never made you proud. It's okay to cry, okay to cry. Be the sun. H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. It's okay to cry, okay to cry. Need the sun. H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y, yeah. I will give everything for a smile. 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 Love's a shield, my arm is hope. You made the good times feel like swinging from a rope. It's okay. You're okay. Okay, a bad day if you do not get your way. Did you see me in my lows? Hello, it's where you keep me, so I ain't that close to cross. Did you keep me in my lows? Hello, it's where you keep me, so I ain't that close to cross. Okay to cry, okay to cry. Need the sun. H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. Need the sun. Yeah. Okay to cry, okay to cry. Need the sun. Storm in my chest, the honeymoon, it's your world, I'm just living in it. We stare through sunken eyes, you stare at the ground, I'm not surprised. Going back and forth, I deliver the sun to your feet, at your door, can't keep my hands in the ride. I buckle up when enough's enough, the sacrifice we make to see the sun. The vitamin D, you suck the soul out of me, on the tip of my tongue. How toxic can I be? I rub you up wrong, and still you want my company. Sometimes I wanna run away, sometimes I run away so I can feel free. How far can my feet take me before they bleed? How far can my feet take me so I can feel free? I wanna run away. How far can my feet take me before they bleed? How far is too far? I will give everything for a smile. Vous écoutez Money Time, l'émission estampillée basket et culture NBA sur Radio Graphite, sur Compiègne 94.9, www.graphite.net. Money Time, l'émission qui décortique la NBA comme une crevette. Allez, c'est parti. Pour... Elle est pourrie, ça.
Qui la crevette ?
Ok. Ouais. Respect pour les crevettes. Allez, c'est parti. Prochaine rubrique.
Marty, tu as pu venir.
Oui.
Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière.
Oh bah, on dirait une DeLorean, non ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?
Toutes les questions recevront une réponse. Film, d'accord. Et on commence.
Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en cosmonaute ?
C'est pas le moment, c'est pas le moment, on n'a pas le temps.
Alors, aujourd'hui, dans Un joueur, une époque, on va parler de Tim Duncan, le joueur iconique des Spurs, qui a appris à sourire à Kawhi Leonard. Et si vous pensez tout connaître sur The Big Fundamental, ben Mathéo testera vos connaissances sur celui qui reste le premier sujet des cauchemars de Shaquille O'Neal. Allez, c'est parti, on vous écoute les gars.
Allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas eu trop de mal à faire cette rubrique parce qu'il fait partie de mes joueurs préférés, il fait partie de mon All 5 NBA All Time, pour tout vous dire. Donc Tim Duncan, de son vrai nom Timothy Theodore Duncan. Et il a été drafté à la première position à la draft 97 par les San Antonio Spurs, comme l'amiral Robinson et un certain Victor Wembanyama. Il débute sa première année et remporte directement le trophée de rookie de l'année. Il faut savoir que sur sa première année, il joue l'ensemble des 82 matchs et il a une moyenne de 21 points, 9 rebonds et 2,5 contre. Donc, il est élu à l'unanimité rookie de l'année.
Ouais. Grosse stat. Ça fait un peu penser à ce stade de Wemby. Hein.
Ouais, c'est un peu ça.
Alors, il est positionné au poste 4. Et pendant 6 ans, il va composer la raquette des Spurs avec l'amiral Robinson. Ils se feront après les fameuses tours jumelles. Et ils sont considérés comme la meilleure raquette de la NBA pendant toutes ces années.
Ouais, pas photo.
Il est considéré comme, par la NBA comme le joueur intérieur le plus complet. Bon, jusqu'à un certain Joker qui va arriver, je pense.
Je pense, ouais.
Il est comme lui un facilitateur de jeu et laisse volontiers les honneurs à ses coéquipiers, ce qui est une sacrée qualité en NBA. Il est connu dans la vie pour être très discret. Il restera pendant 19 ans dans la même franchise. Et depuis 2019, il est coach assistant des Spurs aux côtés de son mentor, Monsieur Popovich. Donc il commence sa carrière en NBA en 97 et dès son deuxième match, il rencontre un certain Dennis Rodman des Bulls de Chicago. Ouais. Et il lui fait la misère au rebond parce que ce jour-là, il en attrape 22 lors de son deuxième match NBA.
Alors que le rebond, c'est quand même la chasse gardée de Rodman. Non,
exactement, exactement. Et c'est juste incroyable. Alors, lors de la saison 99, il y a un lock-out. Ce qui fait qu'il y a que la moitié, voilà, il y a que la moitié des matchs qui ont lieu durant cette période. Et lors de cette saison un peu tronquée, il gagne sa première bague en 99, donc à côté de l'amiral. Et il devient aussi pour la première fois MVP des finales contre les Knicks en 4-1. Les années 2000, 2001, 2002, il va un peu subir la loi des Lakers et aura énormément de mal contre le Shaq.
Qui lui rend
pratiquement 30 à 40 kilos sur les séries. Donc il a eu énormément de mal. Mais il faut quand même savoir que sur un match, il aura quand même planqué 34 points et a pris 25 rebonds lors d'un match décisif. Mais ça n'a pas été assez parce qu'ils l'ont perdu. Mais malgré tout, pendant ces saisons, en 2002 et en 2003, il est MVP de la saison. C'est les deux seules années où il gagnera. Il n'aura plus jamais ce titre après. Et lors de l'année 2003, il va gagner sa deuxième bague. Il est champion contre les Nets 4-2. Et au terme de cette saison, Robinson arrêtera sa carrière, le laissant prendre le lead sur l'équipe.
Alors c'est marrant, je t'interromps deux secondes, ouais. Parce qu'il y a vraiment eu... En fait, Robinson a longtemps été critiqué dans sa carrière. On avait fait la première émission sur David Robinson. Il a été souvent critiqué pour son manque de leadership. Et ce qui est marrant, c'est que quand Duncan est arrivé en 97, ça
ouais. Ouais.
En fait, Robinson a... tout de suite compris qu'il n'était plus le futur.
Il avait le potentiel, bien sûr.
Exactement, et très intelligemment. Et en fait, il a gagné ses deux titres aussi, mais il ne les aurait pas gagnés clairement.
Ah, il ne les aurait pas gagnés tout seul, ouais. C'est sûr. En 2003, il y a deux petits gars qui vont arriver. Un certain Manu Ginobili et un petit Français qui faisait de mal à personne, qui est arrivé. Ouais. Et ils, donc Tony Parker, et ils vont former un Big Three exceptionnel avec qui ils battront donc à 3 le record de matchs gagnés à 3 sur l'ensemble de toute leur carrière.
Ah, c'est fou.
Et ils ont fait un Big Three incroyable. Ah, enfin,
ouais. Puis un vrai Big Three local, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de trade pour l'obtenir celui-là. C'est vraiment des joueurs draftés.
C'est ça. Et donc il va gagner sa 3e bague sur des finales qui vont me faire très mal au cœur. Et il gagne contre les Detroit Pistons de Ben Wallace. C'est une série inoubliable parce que à la fin des 6 matchs, il y a 3-3. Donc le dernier match se fait à San Antonio et au match 7, eh ben il va écraser la concurrence et il va planter 25 points, il va capter 11 rebonds et il va détruire Detroit à lui tout seul quoi. C'était juste incroyable. Et cette année-là, il va gagner aussi son 3e titre de MVP des finales. Et jusque-là, qui avait gagné 3 titres de MVP des finales ? Il y a 3 joueurs. Est-ce que vous le savez ?
Jordan,
oui.
Bird ?
Non.
Bird n'est pas dedans.
Non.
Chamberlain ?
Je vous aide, les deux autres, c'est des Lakers.
Abdul-Jabbar ?
Non.
Magic ?
Magic gagne 2 fois. Non.
Un Lakers ?
Jerry West ?
Non. Vous voulez un indice, un autre ?
Vas-y.
Il est comme moi, il est gros.
À Lakers ?
Bah ouais.
Shaquille ?
Bah oui, Shaquille O'Neal, 2000, 2001, 2002, il gagne les 3 titres et il gagne 3 fois le titre de MVP.
Attends, je t'interromps 2 secondes. Parce que Mathéo, il doit nous sortir 2-3 questions pour voir si on écoute bien, en tout cas.
Alors, ce qu'a dit Mehdi, c'est très complet, du coup, je vais essayer de...
Merci.
Si vous avez tous écouté, bien écouté, du coup, parce que moi, mes questions... Il l'a un peu dit, du coup, dans...
Eh ben, on va voir si on a écouté.
On va bien écouter. Ouais.
Alors, du coup, même pour les auditeurs, s'ils ont bien écouté, je pose des questions.
C'est pas grave.
Les trucs à gagner.
Ouais. Moi, je voulais juste préciser que Tim Duncan, ses stats, elles sont très bonnes, mais c'est pas non plus incroyable pour le joueur que c'est. Il est quand même reconnu par beaucoup comme le meilleur ailier fort de toute l'histoire de la Ligue.
Ah, c'est fou, ça.
Et sa meilleure saison réalisée, est-ce que vous savez à peu près... à combien il tourne en points
dans sa meilleure saison.
Ouais, voilà.
Je pense que ça va.
Bah vas-y, moi je le sais. Donc,
tu le sais. Ouais, je pense qu'il est autour de 24-25 points de moyenne, sa meilleure.
Il a 25 points et demi, ouais.
Ouais, et puis au rebond, sa meilleure saison au rebond ou sa meilleure...
Sa meilleure saison en points, mais du coup aussi...
C'est au rebond, ouais, il a 12,5 facile, non ?
Ouais, il a 12,7 rebonds et presque 4 passes... Presque 4 passes décisives.
Ce qui est plutôt rare à l'époque en plus, 4 passes décisives. Ouais. Vas-y Mehdi, continue, il nous fera une petite question ensuite.
Et depuis ce temps-là, qui a gagné minimum 3 trophées de MVP des finales ? Parce qu'il y en a encore un, qu'on a gagné minimum 3.
3 ?
Il en a gagné 4 même, je peux vous le dire.
Kobe ? Ah non, Kobe non, c'est vrai qu'il n'a pas gagné tant que ça. Il
en a gagné 2.
Depuis Duncan ?
Ouais. 4. Allez. C'est pas dur, les gars.
Stephen Curry.
Ah oui, les Browns. Oui. Merci, le Cyril. Bron, il en a gagné 4. Ouais, à chaque fois qu'il a pris un titre, il a gagné le.
D'accord.
Il a gagné le MVP.
C'est pas mal.
Et il en a fait des finales.
Ouais. Un petit paquet, ouais.
Alors ensuite, il va gagner 2 autres bagues, mais là, il sera moins leader dans son équipe et il laissera aussi les titres de MVP des finales en 2007 à notre Tony National.
Ouais, c'est fou ça.
Et en 2014, un petit jeune qui arrive, Kawhi, il s'appelle Kawhi Leonard, qui était un super joueur.
Qui n'était pas en plus quand il est MVP, il n'est pas attendu à ce niveau-là en fait. Il est MVP avec pas des stats folles, mais avec vraiment un gros impact sur le jeu.
Alors, il y a quelques chiffres qui symbolisent quand même son impact sur le basket en NBA. Donc, il est quand même 5 fois champion NBA, ce qui est quand même très, très fort. Il est 3 fois MVP des finales, 2 fois MVP de la saison. Alors, il est quand même, sur ses 19 années, il est 15 fois dans l'équipe type NBA.
C'est pas mal.
Et le truc que j'ai découvert, c'était juste fou. Il est 15 fois dans l'équipe défensive de l'année. Mais il n'a jamais reçu le type de défenseur de l'année. Ouais. C'est pas incroyable, ça.
Il y a des trucs comme ça.
Il faut savoir que quand il était au collège, donc lui, il a fait 4 ans au collège. Et c'est pour ça que quand il arrive en NBA, il est déjà prêt. Ouais. Morphologiquement, il est déjà prêt. Et il faut savoir que pendant les 4 saisons, il y en a 3 où il gagne le titre de meilleur défenseur de l'année des collèges. Et c'est pour ça qu'il est prêt quand il arrive.
Ouais, il est attendu. Hein.
Et enfin, donc, il rentre au Hall of Fame en 2020.
Évidemment.
Voilà.
Il a été.
Alors, je vais juste vous donner, moi, ces stats sur ces 19 saisons NBA. Ces 19 saisons, donc, ouais, ça veut dire quand même, il y a toutes les dernières où il était pas mal benché, où il tournait ouais, 18-19 minutes par saison. Ouais. Donc, il a joué 1392 matchs. Et ses moyennes, c'est 21 points, 10 rebonds et 3 passes. Et le taux de réussite au shoot sur sa carrière NBA, il est de 50,6%. Sur sa carrière. Ouais, c'est des stats de dingue, quoi. Ouais. C'est,
Il est en mode double-double.
Ouais, c'est ça. En stats, il est en mode double-double.
Vas-y, Mathéo, tu as une question à nous poser, justement.
Alors, il a dit Mehdi dans ce qu'il a
On aurait dû
Est-ce que vous avez bien écouté combien de fois Tim Duncan a-t-il été élu MVP de la saison régulière?
MVP de la saison régulière.
Ouais, la saison 3 régulière.
Fois, oh, t'es nul, hein. Putain, t'écoutes rien, hein. C'est incroyable.
Deux. Oui, c'est une ou deux. Ouais.
Cyril. Ouais. Deux fois. Alors, deux fois, deux années consécutives, 2002 et 2003. Pourtant, en face, il y avait de gros prétendants au titre. Il y avait Allen Iverson, ouais, qui nous fait une saison à presque 32 points de moyenne. Ah, ouais. 32 points de moyenne. Un Shaquille O'Neal monstrueux.
Ouais.
Kevin Garnett. Kobe aussi. Bryant. Ou encore Dirk Nowitzki, qui était...
À Dallas.
Ok. T'as une dernière question à nous poser ?
Dernière question.
Ouais.
Citez-moi le nombre de fois où Duncan et les Spurs ont été champions NBA et en quelle année ?
Moi je dis 5.
5 fois, mais du coup, les.
2004, dernier ?
Non. Il y a 2013, le dernier.
14.
C'est 2014.
Hein, c'est Miami en 2013.
Bah, c'est pour ça que je me suis planté un an après. Quoi.
Ouais. Dans les années 2000, les années impaires plaisent beaucoup aux Spurs. Donc ouais, je crois que c'est 2003, 2005 et 2007, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Bravo, Cyril.
Du coup, 2014, donc 4 qu'il gagne avec notre français Tony Parker et 2 qu'il remporte aux côtés de l'amiral. Et dernière question vraiment très rapide. En quelle année Tim Duncan est-il drafté par les Spurs? En quelle position? Du coup,
c'est facile,
ouais, du coup, on a dit 1997 et première position. Ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que vous savez à peu près quel joueur était aussi lors de sa draft à ses côtés? Citez-moi 2-3 joueurs. Ouais.
La draft de 97, la même année. Pas.
Ouais, moi j'ai du mal à dire. Hein. Franchement, Duncan, à cette période, il y a pas Kenyon Martin? Non.
Non.
Weber?
Ah non, Weber, c'est une année après Shaquille O'Neal.
Ouais, parce que Weber, il a échangé avec Infernier.
Alors, j'ai un indice aussi. Ah oui, il y a le tout premier joueur français qui a posé ses pieds sur le parquet.
Ah, Tariq Abdul-Wahed.
Ouais, il est drafté en 1990.
Olivier Saint-Jean, de son nom précédent.
Ouais. Il y a aussi Chauncey Billups, qui est drafté en 1997.
Ouais.
Tracy McGrady.
Ah ouais, il y avait quand même du lourd. Hein.
Et puis voilà, du coup.
Voilà, merci. On laisse Mehdi conclure, mais merci pour les questions. Super. On apprend des trucs pour cette émission.
Ouais, donc Tim Duncan, moi, c'est un de mes joueurs préférés parce qu'il avait toute la panoplie. Hein, c'est pour ça qu'il se fait appeler le Big Fondamental. Mais attention, il était discret, mais il avait énormément de caractère. Et pour ceux qui ont mon âge, hein, on se rappelle de ses chamailleries avec Kevin Garnett.
Ah ouais,
certainement l'autre poste 4 qui est.
Mais il bougeait pas d'un poil. L'autre, il le trash talkait dans tous les sens. Ouais. Et lui,
bah, c'est l'antithèse. Garnett, c'est le négatif.
Il répondait à rien. Il pas un sourire. Il était froid. Il était. Ouais, mais c'est vrai. Il le démontait.
Ouais, puis il avait des principes. C'était une personne de principe. Hein. Il y a une légende qui dit qu'il n'a pas parlé quand même à Tony Parker toute son
cette
année où il était rookie.
Ouais.
Bon, je sais pas. Allez, la connerre,
il paraît que c'est vrai.
Ok. Tu voulais...
Non, je voulais terminer pour dire ce que c'était mon 5 All-NBA à moi, hein, bien sûr. Tout le monde sera pas d'accord. Donc, moi, au poste 1, je mettrais Steph Curry.
Ouais.
Au 2, Michael Jordan. Au 3, LeBron James. 4, Tim Duncan. Et en 5, Hakeem Olajuwon. Et là, il n'y a même pas de débat sur le poste 5. Voilà. Je veux même pas en entendre
Hakeem the Dream.
Voilà.
Ok. Bon, écoute, super. On reprendra ce débat sur le 5. On fera une émission spéciale sur le 5. C'est l'heure de. On est un petit peu à la bourre. De parler de Cyril. Allez, hop. C'est l'heure de la rubrique Tourisme avec Cyril, notre guide des salles NBA, Globetrotter, qui a quand même expérimenté toutes les salles et les ambiances NBA. Vous pouvez écouter l'émission précédente en podcast, qui était très bien, où il nous a raconté un petit peu tout ça, et qui nous emmène aujourd'hui à Sac Town, c'est-à-dire Sacramento.
Exactement. Alors déjà, un petit cours de géographie. La question, c'est quelle est la capitale de la Californie? Donc évidemment, on connaît déjà la réponse, mais on peut penser que ce soit Los Angeles ou San Francisco, qui sont quand même deux énormes villes. Mmh. Et finalement, c'est la, entre guillemets, la petite ville de Sacramento, qui est la capitale de Californie.
Ça, c'est marrant.
Et donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une salle, donc la salle de Sacramento Kings, qui s'appelle donc la Golden One Center. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est une salle qui m'a marqué en beaucoup de points positifs. Donc je vais vous en parler très rapidement, même si je vois qu'on est un peu, on est un peu en retard. Alors déjà, c'est une salle qui est hyper récente puisqu'elle a seulement 8 ans. Elle a été inaugurée en 2016. Ouais. Donc voilà, donc c'est toujours cool de visiter une salle qui vient de sortir de terre. Elle est parfaitement située, elle est vraiment en centre-ville, on peut y aller facilement à pied. Donc pour moi, c'est aussi un avantage. Il y a d'autres salles qui sont très difficiles d'accès quand on n'est pas véhiculé. Concernant son adresse, ça, je vais peut-être vous l'apprendre. L'adresse est assez originale. Elle se situe au 500 David Stern Walk.
Wow. Ah, c'est sympa.
En gros, il rend hommage. Enfin, hommage. Alors,
commissionnaire.
Stern, ouais, exactement. L'ancien commissionnaire de NBA qui nous a quittés après.
Ouais. Changer. Juste pour, les auditeurs qui ne connaissent pas David Stern. David Stern, ça a été le visage de la NBA officielle. Hein,
clairement.
Déjà, il a nettoyé la NBA qui était pleine de drogués et de.
Ouais, c'est vrai.
De gars tout défoncé. Ouais.
C'est à ce moment-là que j'ai dû la quitter.
C'est clair que c'est l'image de la NBA des années 90-2000.
Ouais. Exactement.
Donc je trouvais ça marrant que ça soit au 500 David Stern Walk. La salle fait 17 500 places, voilà, c'est une taille moyenne pour les salles. D'un point de vue extérieur, la salle est très design. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos ou pas. Ça joue énormément sur les diagonales. C'est-à-dire que c'est un bel écran, hein, mais il n'y a rien de brut. C'est vraiment en diagonale. Je vous invite à aller voir des vidéos sur Internet. C'est très joli. Voilà, la salle est très imposante. Il y a quelques murs végétaux à sa base. Voilà, c'est vraiment une très belle salle. Au pied de l'entrée, ils se sont amusés à écrire les lettres Kings en immense. Et ça, c'est une tendance américaine, c'est que quand on peut enlever la lettre I, donc c'est le cas dans le mot Kings, en fait, ils ont enlevé le I de Kings. Et pour faire la photo devant la salle, on se met droit comme un I. Et en fait, voilà, on fait partie du club.
Oh, sympa, ça.
Ça, je trouve ça très, très original. Donc voilà, ça, c'est l'extérieur. Et ce qui, moi, me marque le plus, c'est qu'en fait, dans un coin de la salle, donc situé au nord-ouest de la salle, il y a 5 immenses panneaux en verre, vraiment immenses. Je pense qu'en hauteur, on doit être sur du 20 mètres, vraiment.
Ah ouais.
Et ce qui, en fait, pour moi, c'est ce qui fait toute l'identité de la salle des Sacramento Kings, puisqu'en fait, ça va jouer à l'intérieur. Parce que déjà, c'est la lumière naturelle qui rentre dans la salle, ce qui est loin d'être le cas de toutes les salles. Donc on bénéficie d'une lumière naturelle dans la salle, donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Et puis, comme c'est une salle assez moderne, ils ont décidé de motoriser ces panneaux de verre. Faut le voir pour le croire, c'est-à-dire que ces panneaux, en fait, peuvent se lever jusqu'au plafond et laisser rentrer l'air dans la salle. Donc à la fois, on a un jeu sur la lumière et aussi sur l'aération. Et en fait, on s'y sent vraiment bien. Moi, je sais que j'ai eu un déclic comme ça. Mais on est vachement bien dans cette salle. Mmh. Et la raison, je pense, principale, c'est vraiment ces panneaux de verre qui peuvent se rétracter, qui laissent passer l'air ambiant.
Ouais, c'est marrant, comme une innovation technique.
Voilà, encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir des photos. Voilà. Après, à l'intérieur aussi, alors évidemment, je vais être un peu plus rapide, la salle est très moderne, très classe, vraiment, c'est du noir. Hein. Je vous rappelle que les couleurs des Kings, c'est noir et violet. Voilà. Et c'est une excellente salle, vraiment, ils ont joué sur l'aération complètement. On peut marcher, c'est-à-dire que même avec un billet, si vous avez un billet au dernier rang, en marchant autour de la salle, on peut quand même voir le match d'assez près, puisqu'ils ont fait vraiment... Voilà, il y a très peu de murs, enfin, au niveau des fondations.
D'accord.
Okay. La lecture est très sympa. Et puis, voilà, après...
L'ambiance.
Alors, l'ambiance, c'est une ambiance très familiale, vraiment. Alors, il y a une très bonne ambiance aussi, alors... Pour moi, elle est dans la moyenne plus. Voilà, c'est ni plus ni moins.
D'accord.
Voilà.
Parce que les Kings, ils ont eu leur heure de gloire avec les Weber, avec Chris Weber, Mike Bibby, Stojakovic,
évidemment.
Et c'est vrai qu'ils ont connu une période de 15 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, 15 ou 16 ans sans playoff.
C'est
record. Hein. Ouais. Donc quand ils sont retournés en playoff l'année dernière, on sentait qu'il y avait vraiment un gros engouement de la population locale. Donc est-ce que tu l'as senti?
Totalement. Ouais, totalement. Il y a une vraie. Alors moi, j'y suis allé maintenant en 2018, je crois. Donc ça commence un peu à faire. Mais il y avait déjà une très bonne ambiance. Encore une fois, c'est familial. Il y a au moins une personne sur deux qui a un logo des Kings sur lui, un maillot d'un jersey. Et puis enfin, dernière chose, ils ont vraiment mis des écrans géants partout. Donc vraiment, au cœur de la salle, on a deux écrans géants latéraux et puis deux petits sur les côtés. Et voilà, donc je conseille vraiment aux gens qui ont la chance de pouvoir aller en Californie.
Bien c'est souvent. Une belle ville, Sacramento.
je veux pas les vexer.
Ouais, non, c'est moche,
c'est, ouais.
Non, c'est une ville administrative, en fait, non ?
Totalement, c'est une ville administrative. Je me rappellerai toujours, mon premier jour, c'était une ville fantôme. Quand j'y suis allé, il y avait quasiment personne dans la ville.
Les centres-villes américains, quoi.
Ouais, exactement. Mais après, je vous conseille vraiment, voilà, c'est à 5...
C'est comme Houston, non ? Ça doit être...
Ouais, exactement. Ouais. Totalement. Bien, c'est une très bonne comparaison. Et donc, voilà. Donc, si vous atterrissez à l'Axe, à Los Angeles, et que vous pouvez louer une voiture, c'est à seulement, entre guillemets, 6 heures de voiture.
C'est à côté.
Pour les États-Unis.
C'est vrai, pour les États-Unis, c'est petite distance.
Et donc, je finirai là-dessus. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un saut à Sacramento si vous avez l'occasion d'y aller.
D'accord, super. Bon, écoute,
ils l'avaient fait aussi, là, depuis quelques années. Quand ils gagnent, tu sais, ils allument la lumière violette.
Light the beam. Ouais.
Oui.
Où ça part dans
ils
le
l'ont
ciel.
Fait cette année, ils l'ont moins fait, non ?
Ils ont moins gagné.
Ils ont moins gagné.
C'est plus difficile.
Je sais pas, il s'est passé un truc.
Mais je pense qu'ils doivent le faire à chaque victoire.
En tant que supporter de Détroit, on pourrait se serrer la main avec les supporters de Sacramento.
Ah ouais, c'est pour là.
Il faut vraiment être amoureux de ces franchises. Hein.
Ouais, c'est bon, il est l'heure de notre coup de gueule de la journée. Allez, c'est parti. Le coup de gueule de Bruno dans sa nouvelle rubrique Bruno Way. Bruno, pas moyen.
Aujourd'hui, Brune, pas moyen.
Aujourd'hui, Bruno veut une vraie belle cérémonie de remise des trophées NBA de fin d'année. Vas-y, Bruno, dis-nous.
Ouais, parce que cette année encore, il n'y aura pas de grande soirée pour la remise des trophées NBA. La Ligue avait encore annoncé, comme elle l'a fait, elle l'a annoncé, au compte-gouttes, tous les différents vainqueurs des récompenses. Et c'est vraiment au compte-gouttes, quoi. Alors on a d'abord une liste de noms qui est dévoilée pour chacun des trophées. Ensuite, il y a le calendrier des annonces. Mmh. On a les finalistes et tout.
Ils tombent en plein, hein, le lendemain des matchs de play-off, ou dans les nuits.
C'est moi, ça me vénère. Ça me vénère.
D'accord.
Vous voyez le palmachot, là, la vidéo, là, ça me vénère. Et au minimum, alors on a une visio. Ou alors c'est une remise de prix dans le public. Mais c'est une pauvre visio, hein. Des fois, c'est un truc. Ou alors c'est devant son public, parce que là par exemple Jokic, je crois qu'il l'a quand ils ont quand même fait un truc, ou Gobert, ils ont fait un truc aussi devant leur public. Mais le pire, c'est quand ils sont plus en play-off. Donc on avait eu l'histoire de notre fameux ça peut se finir dans les écuries, quoi. Comme Jokic, il était rentré direct chez lui en Serbie, et puis Mike Malone avait fait le trajet en Serbie pour lui remettre le trophée. De
alors déjà c'est pas éco-responsable, hein, comme système, le mec qui fait le trajet jusqu'en Serbie pour lui ramener son trophée, hein. Alors que le gars il était dans la même pièce 24 heures avant.
Bon, cette année, il y a quand même eu un truc qui était cool. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, c'est la vidéo des anciens numéros de draft, numéro 1 de draft, qui a fait. Ils ont fait une belle vidéo pour Wemby.
Ouais.
Et c'était une surprise. Enfin, il avait l'air.
J'ai vu la vidéo. Elle est magnifique.
C'était vraiment super beau.
Vous l'avez vu, non ?
Mais oui, j'ai vu. Hein. J'ai vu un petit.
Mais c'est avec un sponsor, je crois. C'est pas ça. C'est avec.
Je sais pas si c'est une vidéo officielle NBA.
Tissot, je sais plus. Faudra vérifier.
Mais toi, tu attends en fait un véritable festival de Cannes, toi.
Bah c'est ça, ouais. Pourtant, les Américains, ils sont trop forts, toi, pour organiser les cérémonies, quoi. Avec les Oscars, toi, une grande salle avec plein de stars, justement, quoi. Ou t'aurais, par exemple, Will Smith qui foutrait des baffes à Draymond Green, quoi, un truc comme ça, quoi. Excellent. Avec des discours policiers, tu remercies ton entraîneur, tes parents, ta nourrice, ton boulanger, ton chien, surtout Aaron Gordon, d'ailleurs, il peut remercier son chien. À une époque, il a eu quelques...
La même coiffure.
Pardon. On avait dit pas le physique.
Ah, non, c'est vraiment pas le physique.
Ouais. Donc, et la preuve que je pense qu'il y a quand même un souci, c'est que j'aimerais bien vous faire un petit quiz aussi, c'est est-ce que vous pourriez me citer les lauréats de l'année dernière ? Par exemple, c'est qui le meilleur sixième homme en 2022-2023 ?
Ah putain, c'est...
le meilleur entraîneur ?
Oh, c'est horrible.
L'année dernière, les gars.
Le MVP, je sais. C'était Embiid.
MVP, c'est Embiid. Il a volé.
MVP des finales, ouais. C'était Jokic.
C'est vrai, ouais.
Défenseur de l'année, c'est pas Marcus.
Défenseur de l'année, vas-y, défenseur.
Non, c'est Jared Jackson Jr.
Jared Jackson Jr.
Et Grizzlies.
Ouais, c'était l'année d'avant.
Ouais. Sixième homme, ça m'embête de pas le trouver.
L'entraîneur, on vient d'en parler avec Cyril.
Ben, Lusser.
Mike Brown, les Kings.
Ah oui. Oui, c'est vrai, il avait quand même qualifié les Kings.
Le meilleur sixième homme, c'était Malcolm Brogdon des Celtics.
Oh putain,
ouais, il joue aux Celtics.
Rookie of the Year, l'année dernière.
Banquero.
Banquero.
Yes. Oh, c'était pas dur, ça.
Ouais. Et la meilleure progression ?
Bah, c'est pas Shea.
Markkanen. Au Jazz.
Non, Markkanen, d'accord. Ok. Ouais.
Mais toi, ça prouve quand même qu'il y a un petit problème, quoi. Alors, c'est vrai que le calendrier à la NBA, c'est hyper compliqué. Il y a trop de matchs, il y a trop de trucs à caser. Mais, bon, est-ce qu'il pourrait pas nous faire une petite fête quand même, quoi ?
Tu voudrais être invité, quoi. Il voudrait être invité, mon assassin, en fait. Ouais.
Bon, on va se faire quand même un petit rappel pour cette année. Donc, le MVP, c'est bien notre ami Nikola Jokic. Le meilleur progression pour cette année, Tharise Maxey. Victor Wembanyama pour le rookie de l'année.
Le meilleur sixième homme, donc, c'est Nasrid, au Wolf.
Ouais.
Marc Degnaud, au KC,
coach
de l'année. Le Defensive Player of the Year, c'est Rudy. Et donc, le Clutch Player, c'est Stephen Curry.
Ouais.
Donc, bah, voilà, ça nous fait un bilan avec une troisième année pour Nikola Jokic, la révélation Tyrese Maxey, quand même.
Oui, mérité.
Wembanyama qui révolutionne la NBA. Les Wolves, quand même, qui trustent. Il y a deux podiums, enfin deux prix
trois,
pour les Wolves.
Trois. Parce que Conley, il a le meilleur coéquipier aussi.
Meilleur coéquipier, ouais.
Ça, c'est le seul truc auquel j'aurais pu prétendre encore, je suis pas sûr.
Moi non plus.
Le Thunder est quand même récompensé par l'intermédiaire de son coach. Bon, ils n'auront pas le MVP. Mmh. Donc, on a le bilan pour cette année, en attendant de découvrir les All-NBA First Team.
Oui, qui vont pas tarder.
Et puis surtout, qui sera le boss de fin, hein, en playoff, le MVP des finales. Mais bon,
pour moi,
c'est pas ça au final qui compte, quoi.
Il va y avoir les MVP de conférence avant, hein. Parce que maintenant, quand tu gagnes une conférence, il y a aussi un MVP lors des finales de MVP.
C'est la première fois de l'année ou c'était pareil l'année dernière?
C'était la dernière, c'était la première fois, je crois.
D'accord, donc là, c'est la deuxième, ok.
Ok.
Donc voilà, ouais.
Ouais, parce que je crois que Jokic a gagné. Et la conférence et la finale NBA.
Très bien. Bah écoute, t'as fini ton coup de gueule ?
Ouais.
Bon, vous avez compris.
On veut une cérémonie.
Adam Silver, si nous écoute,
des petits
fours. Tu mets les moyens maintenant, d'accord ?
Du champagne.
On veut des petits fours, du champagne.
Voilà. Et on veut un événement. Tout à fait.
Voilà. Ok. Allez, il est l'heure de clore l'émission. Et oui, le buzzer beater. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais la question d'aujourd'hui, c'était le load management, c'est-à-dire le fait de gérer ses joueurs, de les faire se reposer, de faire en sorte qu'ils ratent certains matchs pour des blessures plus ou moins diplomatiques, plus ou moins réelles. Cette question, entre ça, on a connu des joueurs qui symbolisent le load management comme Kawhi Leonard, mais l'esclavagisme moderne de façon Tom Thibodeau, est-ce que les gars, il y a une recette pour garder un effectif compétitif en playoff?
Sur le load management, déjà il faut dire que la NBA a sévi.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas reposer toutes les stars en même temps.
Et les fameux 65 matchs minimum pour avoir un trophée.
Ouais. Donc ça, c'est un point plutôt positif. Mais
moi, je trouve que de faire reposer un joueur de temps en temps pour éviter de le faire enchaîner, genre sur des back-to-back ou autre, c'est quand même intéressant.
Surtout quand ils ont, quand c'est LeBron James qui a 40 ans, 45 ans.
On parlait de Doncic aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent de le gérer un petit peu plus, peut-être? Alors effectivement, quand on arrive à ce degré de la compétition, ça devient compliqué de pas jouer. Tu veux jouer à fond
parlait de Kawhi. Kawhi, quand il jouait à San Antonio, il était quand même managé là-dessus, quoi. Il est pareil à Toronto.
Ouais, et puis t'as le même cette année aux Celtics, hein, c'est Porzingis qu'ils ont vachement bien géré toute l'année.
Il a fait trois
matchs d'affilée
tout seul.
Ouais, mais jouer contre Miami, c'est normal. Non.
Il fallait qu'il le place.
Ouais. Oui, il fallait que je le place.
Une fois Miami dans le.
Dédicace au moins. Bah oui, parce que je peux plus en parler pendant quelques temps. Et toi, Mathéo, t'en penses quoi, toi? Parce que quand tu vois les temps de jeu, par exemple, de New York, ça te.
Moi, je trouve que Thibodeau, il fait jouer trop Jalen Brunson et tout. Je pense qu'il est cramé, là. Je pense qu'il pourra pas tenir toute la fin s'il gagne.
Mais après, toi, c'est sa manière de jouer, quoi.
Est-ce que ça va tronquer, selon toi, l'issue des playoffs? Est-ce que tu crois que ça va tronquer les résultats de New York? Ou ce sera finalement New York, en fait, en sacrifiant ses joueurs comme ça, en fait, il crée une espèce de dynamique, parce que c'est une technique aussi, hein. Tu les exploites jusqu'au bout, mais les gars, ils donnent tout, en fait.
Je pense que Thibodeau, il veut absolument gagner cette série. Mais qui se dit que de toute façon, s'il tombe contre Denver ou contre une grosse équipe genre Boston, de toute manière, c'est mort. Donc, à mon avis,
je pense que c'est de la résignation, en fait, le gars.
Ouais,
il va au bout de ses idées, même s'il va en mourir. Il va mourir avec ses idées.
Ouais, mais après, il faut voir aussi ce qu'ils ont comme objectif. Hein. Parce que est-ce qu'ils ont des objectifs de leur general manager, à savoir cette année on veut une demi-finale de conf, on veut une finale de conf, on se truste le trophée. Parce qu'en début d'année, on mettait Boston d'un côté, on mettait Denver de l'autre. Ça semblait un peu évident pour tout le monde. Ça veut dire que toutes les autres équipes, à mon avis, en objectif, ils ont soit la finale NBA, soit la demi-finale NBA. Mais pour moi, New York, Thibodeau, on ne changera plus, c'est fini.
Il a quand même mis fin, on en parlait tout à l'heure, Derrick Rose, sa grave blessure, Noah, ses blessures, etc. En fait, il a abîmé beaucoup de mecs comme ça, en les faisant jouer beaucoup trop longtemps. Et en fait, la question que tu te poses, c'est que là, aujourd'hui, New York est compétitif, super compétitif, mais est-ce qu'ils ne vont pas payer ça la saison prochaine avec des gars qui vont se faire des blessures graves? Peut-être à la fin des playoffs, peut-être pas, hein, ou en début de saison. Et puis finalement, ils vont jouer. Randle est blessé, on oublie souvent, mais c'est un élément important de New York. Et voilà, quoi. Il est l'heure, monseigneur.
C'est passé trop vite. Hein.
C'est passé vraiment super vite, ouais. Donc, avant de laisser l'antenne, je vous remercie, messieurs, c'était un plaisir de vous avoir.
Merci à tous les auditeurs.
Merci à ceux qui nous écoutent, effectivement. On ne fera pas de dédicace générale, mais si. Non, on n'a pas le temps. On rend l'antenne en espérant avoir le plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Je rappelle que Money Time, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois. Et vous retrouverez nos chroniques, vos intervenants, nos coups de gueule, etc. Et notre bonne humeur. Ciao à tout le monde.
Ciao.
Salut.
Salut.